Bonsoir. Le jeudi 4 décembre, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda sont attendus à Washington pour entériner l'accord de paix signé entre leurs ministres des Affaires étrangères en juin dernier. Cette rencontre, confirmée par la Maison-Blanche, est censée marquer un tournant dans la crise diplomatique et sécuritaire. Cependant, sur les terrains, ce processus de paix semble n'avoir aucune répercussion positive. Depuis sa signature, les armes n'ont pas encore fait taire le conflit dans l'est de la RDC. Depuis quelques jours, les combats ont repris avec une intensité alarmante sur plusieurs axes du sud Kivu, notamment à Kamanyola, Togota, Kaziba, Mwenga Centre et Kasika. Plusieurs sources confirment l'implication des multiples belligérants, les FARDC, les forces burundaises, les Wazalendo et la coalition AFC M23. Quelle lecture faire de cette situation? Pensez-vous que l'accord de paix qui sera signé entre la RDC et le Rwanda va ramener la paix dans cette partie du pays? Participe au débat de ce soir Willy Mishiki, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Willy Mishiki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
Avec moi dans ce studio, Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, député national honoraire, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, SID, en sigle parti membre de la coalition Lamuka. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Kasekwa.
Bonsoir Kelly.
Henri Pacifique Mayala est également avec nous dans cette émission. Il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker KST en sigle. Un projet de recherche sur la violence à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Pacifique, Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Merci. Ambouji Mayo Kassa Oriental, vous nous suivez sous la 93.8. Et si vous êtes en Belgique, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Gaz TV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le Coltix de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
C'est le grand jour, ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington, aux États-Unis. Kinshasa et Kigali vont signer un accord censé ramener la paix dans la partie est de la RDC. Cependant, la situation reste explosive sur les terrains, notamment dans les cités de Katogota et Kamanyola, où FARDC, Wazalendo, armée burundaise et AFC M23 s'affrontent. Enoch Katumbi.
Cet accord, déjà paraphé il y a 6 mois par les deux gouvernements, sera officiellement signé demain par le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les États-Unis confirment la cérémonie. Le chef de l'État congolais est déjà arrivé sur le sol américain. Selon la présidence congolaise, la première étape de cette cérémonie se déroulera à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h et à 11h10, avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale à la Maison-Blanche. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans le bureau du président américain. La signature de l'accord proprement dit, ou mieux son enterrement par les deux chefs d'État, aura lieu à United States Institute for Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Mais pendant que la diplomatie avance, la réalité du terrain raconte toute une autre histoire. Ce mercredi, des violents affrontements ont éclaté dans les cités de Katogota et Kamanyola, dans le sud Kivu. Selon plusieurs témoins, l'AFC M23 a attaqué vers 3h du matin les position avancée des FARDC à Katogota. L'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, a reçu l'ordre de riposter une heure plus tard, repoussant les rebelles vers Kamanyola. La cité est aujourd'hui coupée en deux. Le sud, contrôlé par les FARDC, le nord jusqu'à la frontière rwandaise, encore sous l'occupation de l'AFC M23, soutenu par le RDF. La population, tentant de fuir vers le Rwanda par la frontière de Bunagana, s'est d'abord heurtée à la fermeture des barrières avant que Kigali ne finisse par autoriser le passage. Bilan de ces affrontements, des morts, des blessés et de nombreuses destructions.
Merci Enoch Katumbi. Willy Mishiki, je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation demain jeudi, ou ce jeudi 4 décembre, le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda vont entériner l'accord de paix signé entre leurs ministres des Affaires étrangères en juin dernier. Malgré cette signature sur le terrain, et on signale la reprise intense des combats, Kinshasa ou le président à Washington pour entériner l'accord sur le terrain, la reprise intense des combats. Alors comment vous justifiez cette démarche diplomatique alors que sur le terrain l'accord de juin semble être ignoré par les belligérants?
Oui, je salue d'abord mes co-débatteurs et les auditrices et auditeurs de Radio Capi qui nous suivent. Je voudrais ici d'abord saluer la diplomatie exemplaire menée par le chef de l'État et son gouvernement. C'est la première fois qu'un tel accord aura été signé au plus haut niveau et sous la médiation américaine. Donc, déjà, les États-Unis comme une puissance politique et militaire sera présent pour veiller au respect des engagements des uns et des autres. Et on ne s'est pas seulement limité aux États-Unis, on a invité aussi le président de la Commission de l'Union africaine, le président de l'Union africaine, le président Lourenço, le président togolais qui fait la médiation, mais aussi l'émir du Qatar. Donc, et puis, on a invité aussi les autres aussi qui ont toujours joué un rôle nocif dans ces conflits, mais ils se cachent, notamment le président kenyan et le président ougandais. Et de notre côté, comme nous avons un partenaire qui est chez nous officiellement, le président burundais, il est aussi invité. Donc, c'est un événement important qui ne s'est jamais passé. Alors, qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Lorsque vous lisez le point 1 de l'accord, là où on parle de respect de l'intégrité territoriale, vous allez voir que il y a un point important qui fait allusion, notamment le point, l'alinéa 2, qui fait allusion au cessez immédiatement et totalement des hostilités.
Hostilité.
Alors, on a constaté que la AFC M23 et leur allié Rwanda voudraient bénéficier qu'avant la signature, le 4 décembre, qu'ils occupent déjà des positions pour dire que non, nous ne bougeons plus de ces positions. C'est comme ça, vous avez vu l'attaque dont nous avons été victimes hier à 3h du matin à Kakogota, près de Vira. Heureusement, les Ouazalendo et les FARDC ont repoussé les ennemis jusqu'à Kamanyola. Ils ont eu la vie sauve puisqu'ils ont traversé la frontière pour se retrouver au Rwanda. Et on a vu après-midi aujourd'hui l'arrivée des forces spéciales rwandaises qui est venue intervenir. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, ce sont nos forces qui occupent les Kamanyola. La même chose aussi du côté d'Ouvira. À Kagolota, là-bas, c'était la ligne de fond. Mais on a vu cette semaine que l'AFC M23 et les Rwandais ont tout fait pour atteindre la cité de Mwenga, où ils sont à 5 km aujourd'hui de Mwenga. Puisque Mwenga est stratégique, il y a beaucoup de minerais d'or là-bas à Mwenga, et ils voulaient qu'à la signature de cessez-le-feu, ils ne bougent plus de leur position. C'est la même chose aussi à la frontière avec Walikale, où ils se sont déployés vers Kimua, le site de Lubero, là où ils montent jusqu'à Buleusa, un peu partout. Donc, on sent que la volonté politique n'est pas là. Or, lorsque cet accord de paix sera signé, ça ne sera plus une affaire de la RDC, ça sera une affaire de la communauté internationale. Et nous connaissons tous l'influence du gouvernement américain et en particulier du président Trump dans la région. Pour son honneur, il ne va pas accepter que cet accord puisse être un échec. Et cet accord a tout ramassé. Il y a le respect de l'intégrité territoriale, c'est vrai. Il y aura brassage et intégration des groupes non étatiques, mais c'est au cas par cas. Ce sont aujourd'hui des victoires que le président Tshisekedi a obtenues, et moi je pense que le président Tshisekedi devrait aujourd'hui obtenir le prix Nobel de la paix pour avoir su arrêter l'avancée militaire de nos agresseurs en s'appuyant sur leurs propres parrains qui sont les Américains et les Qataris.
Alors, Willy Mishiki, l'Est en guerre, tandis que Kinshasa signe la paix. Qu'est-ce qui garantit que les décisions prises à Washington auront une réelle force contraignante pour faire cesser les attaques impliquant le M23, l'AFC M23 et les forces rwandaises, comme l'accuse l'armée congolaise?
Oui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été pacifiste. Dès son entrée à la magistrature suprême, il a manifesté la volonté de collaborer pacifiquement avec tous les 9 pays voisins, y compris les Rwandais. Ça, c'est un test pour nous qui est important. Nous allons maintenant voir comment les agresseurs rwandais vont se comporter. Oh, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi le Kenya qui soutient le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. C'est comme ça que nous avons insisté que le partenaire du Rwanda soit aussi là. Et le fait que les parrains politiques, économiques et diplomatiques du Rwanda, les États-Unis et le Qatar sont là, représentés au plus haut niveau, nous pensons que cette fois-ci, le Rwanda n'aura plus de prétexte, puisqu'il a accepté lui-même de signer. Quand vous lisez les points B, les points C, on parle du retrait de toutes les forces étrangères sur le territoire des uns et des autres, et de non-soutien aux groupes armés qui déstabiliseraient les pays et les deux pays. Donc, nous pensons à ce qui nous concerne. Nous, on aura posé demain un acte de bonne foi, et je suis convaincu que le président Tshisekedi, comme moi-même, comme nous tous à l'Union sacrée, nous croyons à cet accord de paix. C'est une occasion, une fois de plus, pour nous de démontrer notre volonté à résoudre les conflits de l'Est d'une manière pacifique.
Alors,
si l'autre voisin continue dans sa recherche à mettre la main basse sur les ressources naturelles, alors à ce moment-là, on prendrait la communauté internationale en témoin.
Alors, Willy Mishiki, dans ces affrontements de ces dernières heures, on parle de la présence des forces burundaises qui auraient bombardé certains villages. Il y a les Burundais, parmi les belligérants, on a les Burundais, on a les Ouazalendo. Est-ce que cette stratégie d'alliance ne risque-t-elle pas d'alimenter davantage la logique des guerres par procuration dans la région?
Justement, c'est pour cette raison qu'on a fait venir aussi le président d'Aïchemi à Washington, où il est déjà depuis ce matin, puisque le Burundi est entré officiellement en RDC. Nous avons un accord de coopération militaire avec les Burundais, et que les Burundais sont conscients qu'une fois que l'Est du pays de la RDC est déstabilisé, c'est leur sécurité qui sera aussi menacée. Vous savez, aujourd'hui, une grande partie de Burundi, quand je prends Kitega, Bujumbura, ils dépendent des activités commerciales avec la RDC. Donc, s'il n'y a pas paix en RDC, il n'y aura pas paix au Burundi. C'est pourquoi nous avons parlé dans cet accord d'intégration économique et aussi des échanges commerciaux qui puissent sécuriser les peuples de part et de l'autre. Donc, pour nous, le Burundi n'est pas une force agresseuse. Le Burundi est un partenaire. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, j'ai confirmé, nous avons des troupes burundaises à Uvira, nous les avons à Mwenga, nous les avons aussi une partie à Shabashabunda, qui sont chez nous officiellement. Et lorsque ils sentent qu'il y a une menace, vous savez que le raid de Tabara aujourd'hui, c'est une opposition contre les Burundis qui a eu l'appui de Turanao. C'est normal que les Burundais se défendent pour prévenir les dangers.
Merci. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national honoraire, premier vice-président du parti politique SID, Engagement citoyen pour le développement. Vous êtes également notable du Nord Kivu, SID, qui est membre de la coalition Lamuka. Comment vous analysez cette situation en signe à Washington, à l'Est, ça crépite?
C'est révoltant. À Washington, on va parler minerais stratégiques. On va parler du gaz méthane. On va parler de la gestion des parcs nationaux. Pendant ce temps-là, les populations congolaises de Kamanyola, de Katogota, de Luvungi sont pris en étau. C'est à peine que certains ont eu la possibilité de traverser la frontière vers le Rwanda pour fuir vers Bugarama. Nous apprenons ce jour que le chef du village Ndumulo, monsieur Kungu, a perdu 4 de ses enfants. Une bombe est tombée sur sa maison. Dans la nuit du 23 au 24 novembre, dans le village Irambi, près de Katana, il y a eu massacre. La société civile parle d'au moins 20 personnes tuées. Et pendant ce temps-là, l'Union sacrée se félicite d'un prix Nobel à attribuer à leur champion. C'est méchant. L'accord sera entériné, dit-on, demain, c'est-à-dire Félix va l'approuver et lui accorder un caractère juridique définitif. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le 12 de ce mois, du mois de novembre, Patrick Muyaya, au nom du gouvernement, jurait sur Radio France Internationale que jamais Félix ne se rendra à Washington tant que l'armée rwandaise ne se sera pas retirée, ainsi que l'FCM 23. Non seulement l'armée rwandaise ne s'est pas retirée, non seulement l'M23 ne s'est pas retirée, mais bien plus, M23 lance des offensives généralisées, non seulement sur Katogota, sur Kamanyola, sur Luvungi, mais également dans les Shabunda, dans les Mwenga, dans les Walungu, dans les Fizi, à 30 km près de Minembwe, dans les Walikale, où il est Michiki le dit si bien. Et pendant ce temps-là donc, le serment fait par Muyaya au nom de son chef, il tombe dans l'eau comme le fameux slogan de la moindre escarmouche. Muyaya devait avoir le courage de démissionner parce qu'on doit cesser de s'amuser avec les Congolais, mentir. Ils ont dit qu'ils ne vont pas signer les cadres d'intégration économique régionale, qu'ils ont inséré un paragraphe stipulant que la mise en œuvre de ce cadre d'intégration régionale sera conditionnée au retrait des troupes rwandaises. Demain, ils vont capituler et donc ils devaient avoir le courage, l'honneur de démissionner parce que, entre-temps...
Mais au nom de la paix, Jean-Baptiste Omwindo, c'est quoi ? On veut que la paix revienne dans cette partie du pays.
Mais Kelly, quel est le contenu de ce fameux accord?
Et qu'est-ce qui vous inquiète d'abord hein, dans cet accord? J'imagine que vous l'avez lu, hein, parce qu'on l'a déjà partagé. Quelles sont les clauses qui vous inquiètent quant à leur capacité à résoudre la crise, voilà, sans sacrifier les intérêts nationaux?
La première chose, c'est le questionnement qui consiste à savoir quelle est la contrepartie que la RDC gagne alors que le Rwanda et les États-Unis, leur parrain, gagnent tout. Qu'est-ce que le Rwanda gagne? Premièrement, dans cet accord que Félix va entériner, c'est le fameux accord du 27 juin 2025, hein, on entérine que le Rwanda nous fait la guerre parce que il veut neutraliser les FDLR. C'est-à-dire, Félix part entériner ça comme motif. Ce n'est plus une guerre d'agression, c'est une guerre au nom de la neutralisation des FDLR. Ce qui est un alibi. Félix sait combien d'opportunités il a offert au Rwanda. Depuis 2019, l'élimination de Muda Tshumura, de beaucoup d'autres chefs des FDLR sur notre territoire. Félix sait que la chute de Bunagana sous les mains du Rwanda en juin 2022 n'est pas par un prétexte d'une attaque des FDLR sur le territoire rwandais. Et aujourd'hui, il part légitimé. Alors que, donc, 5 mois depuis le 27 juin, la guerre s'est poursuivie, alors que le Rwanda contrôle les zones prétendues être habitées par les FDLR. Et 5 mois après, cette fausse analyse, Félix part l'entériner. Deuxièmement, dans ce fameux accord, la présence de l'armée rwandaise, une armée d'agression sur notre territoire, est qualifiée de mesure défensive à lever. Lorsqu'on parle de mesure défensive, cela veut dire que Félix entérine que les troupes rwandaises ne sont pas sur notre territoire. On ne place pas les mesures défensives à l'intérieur du territoire du pays agressé. Les mesures défensives sont supposées être placées le long de la frontière. Par mesures défensives, on veut considérer par exemple le brouillage de la circulation aérienne. Et Félix part entériner ça, qu'il y a mesures défensives à lever et non une agression avérée telle que documentée par les experts des Nations Unies. Troisièmement, qui fait mal dans cet accord, Félix part entériner la formule non expliquée d'après laquelle la RDC s'engage à neutraliser les FDLR et les groupes affiliés. Nous venons de suivre tout à l'heure que ce sont les Ouazalendo qui appuient les FARDC à Kamagnola pour défendre l'intégrité territoriale. Dans l'accord que Félix va entériner demain, les Ouazalendo sont qualifiés de groupes affiliés, associés aux FDLR. Bref, nous devons poser la question à M. Félix, quelle est la contrepartie que les États-Unis lui donnent? Est-ce que c'est simplement le fait de lui promettre qu'il va rester au pouvoir à Gombe, au palais de la nation? Est-ce qu'il vise un soutien à son agenda de changement de constitution pour qu'il ferme les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme, sur toutes les tueries, la guerre à court, pour que demain, on fasse du folklore? Trump sera content de publier à travers le monde une photo, une poignée de main entre Kagame et Félix. Il va se prévaloir de réclamer le prix Nobel, mais dans l'entretemps, les sacs coulent à Kabaré, les sacs coulent sur tout le sud Kivu, les sacs coulent. Personne ne va parler à Washington de 2585 personnes tuées dans les chefferies de Bapere et de Basso au nord Kivu par les Aldef. Ça n'existe pas à l'ordre du jour. Personne ne va parler du drame d'Alituri, du drame humanitaire causé par l'agression rwandaise. Ça n'existe pas. Quelle est la contrepartie qui pousse Félix à aller à Washington, contrairement à toutes les promesses mensongères qu'ils ont données au peuple congolais, qu'ils n'iront jamais tant que l'armée rwandaise ne cessera pas retirée.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, votre lecture par rapport à ce tableau. On a d'un côté le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui se rend à Washington pour entériner l'accord signé il y a au mois de juin dernier par notre ministre des Affaires étrangères avec celui du Rwanda, mais sur le terrain, ce sont des coups de feu ou les crépitements des balles qui se poursuivent. Il y a des morts, des pillages, des destructions. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Parce qu'il s'agit de cet accord qui déjà a été signé par les ministres des affaires étrangères des pays respectifs demain à Washington. C'est un événement symbolique important parce qu'il s'agit aussi quand même de plus de 4 chefs d'État qui sont conviés à une cérémonie aussi importante dans une région aussi instable que la région des Grands Lacs. Mais dans le fond, moi, je le disais encore sur vos ondes, le 13 de ce mois, du mois passé, si je ne m'abuse, j'ai très peu de confiance ou de foi en ce à quoi pourrait aboutir tout ce qui va se passer demain. Pour revenir sur les faits, l'accord signé le 27 juin, chapitre 9, c'est que l'entrée en vigueur a été directement à la suite de l'accord. dès la signature de cet accord. Après, sur l'interprétation du calendrier, il y a eu l'interprétation qui part à la confusion. Et c'était selon que certains supposaient que voilà, c'est à partir de la mise sur pied du mécanisme conjoint de l'observation sécuritaire entre le Rwanda et le Congo, ou de la nature de... Bref, au-dessus, si on regarde l'attribution phare et cet accord sur la démobilisation des FDLR, en tout cas la neutralisation des deux, s'il faut utiliser les termes de l'accord, on est loin de s'imaginer la matérialisation de ces engagements-là. Nous sommes à très loin de 3 mois à compter du jour de la signature par les ministres des Affaires étrangères et de la même façon du jour de la mise sur pied de ce mécanisme conjoint sur la gestion de sécurité de part et d'autre. De deux, il y a eu un signal très fort lors de la conférence humanitaire de Paris, parce qu'on a vu les réactions du côté rwandais, qui ont demandé à ce que cette annonce ou ces vœux sur la réouverture de l'aéroport de Goma soit une question soumise aux rebelles de l'AFCM 23. Aujourd'hui, on parle d'une entité qui, dans le gros, ne sait pas exactement ce que le Congo a perdu le 27 janvier lorsque Goma tombait aux mains de ces rebelles. On ne sait pas à quoi ça aboutit en termes de l'enquête au directorat général sur la débâcle à Goma. On ne sait pas ce que le Congo a perdu à Nyamunyuni, à Goma ou à Kavumu. La rébellion depuis près de 2 ans, ils ont contrôlé la frontière de Bunagana. Depuis janvier, ils ont la frontière du sud Kivu et du nord Kivu, Goma et Bukavu. Ils ont Rubaya, ils ont exploité pendant un temps Twangiza. Et à plusieurs reprises, on a vu que ils ont lié, en tout cas, les cérémonies des pass-out pour les militaires que pour leur cadre politique. Et au surcroît, je ne pense pas que pendant tout ce temps, ils se sont couchés sur les lauriers à prendre du bon temps à Goma. On parle aujourd'hui d'une mouvance qui pourrait ou qui aurait développé une agence propre à elle-même, prête peut-être à s'affranchir de son maître. Et là, on est allé signer avec Kagame, qui a toujours, de toutes les façons, nié son implication dans toute cette histoire, dans des conditions que nous-mêmes, on n'a pas été en mesure de disséminer à nos populations. On peut bien vouloir se bomber le torse, c'est que nous avons l'appui burundais, mais dans quel cadre les soldats burundais se retrouvent sur le sol congolais? Quel niveau d'institutionnalité cela implique? C'est pour à croire que le président Félix a su s'accommoder avec son un père au coudet, c'est qui jusque-là continue à faire tenir certaines lignes. Au-delà de cela, si aujourd'hui on considère que voilà, on signe à Washington et que le lendemain, l'AFCM 23 nous dit, nous ne sommes pas concernés par tout ce qui s'est passé là-bas parce que tout, vraisemblablement, on n'a pas été convié à cela et on n'inquiète pas. Parce que ça a toujours été ça, le rétablissement de l'autorité, la façon que ça a été interprété à Kinshasa, c'est pas la même chose qu'à Goma. Et donc aujourd'hui, il faut craindre que, de la même façon que ce souhait est venu avec un engagement qui n'est pas le moindre, parce que dire que juste parce que ça se passe aux États-Unis, alors waouh, je pense que c'est très mal connaître les États-Unis. Et quand on sait qu'il existe une résolution des Nations Unies qui recommande certaines choses qui n'ont jusque-là pas été mises en œuvre parce qu'effectivement, ceux qui tiennent le contrôle des zones sur lesquelles il faut rétablir l'autorité du pays, qui tiennent le contrôle dans les zones où aujourd'hui beaucoup de Congolais ne savent pas retourner chez eux, ça pose problème. Et moi, je pense que oui, demain, va-t-il avoir cette signature, les espoirs du gouvernement congolais dans le rétablissement prochain de la stabilité ou de la paix à l'est de la République démocratique du Congo à travers le cadre d'intégration économique, parce qu'il s'agit aussi de ça. Merci. En dehors du cadre d'intégration économique, il y aura ce mémorandum entre le Congo et les États-Unis sur le volet sécuritaire, alors que pour le Rwanda, c'est économique. Tout cela va prendre beaucoup de temps. Et matériellement, il y a toujours cet acteur qui n'est pas associé. Et pas seulement que celui-là. Aujourd'hui, et je reconnais peut-être que, avec tous les mérites, ce pourquoi l'honorable Michiki s'est toujours porté défenseur, les Wazalendo ont tenu aujourd'hui les lignes. Ça pose problème. Qui représente les Wazalendo? Qui répondra de leurs responsabilités le lendemain de tout ceci? Donc, je pense que, Madame Kelly, tout cela, lorsque vous circonscrivez dans une compréhension ou une lecture qui pourrait porter à nos populations un espoir sur l'avènement ou le rétablissement d'une certaine stabilité, ça me laisse très pessimiste.
Merci.
Et je pense que ça va se limiter à du symbolique, que sur le terrain, comme on l'a vu le 15 novembre, où on signait le cadre, l'accord cadre, et que le lendemain, les combats s'intensifiaient, et qu'aujourd'hui, à la veille de l'entérinement de ce accord, qui est plus ou moins le père de négociations à Doha, il y a cette réintensification.
Merci.
Washington, il y a très peu que les Congolais pourraient espérer avoir un permis de retour sur la stabilité dans la partie est du pays.
Merci Henri Pacifique. On va prendre ces auditeurs qui appellent sur le standard de Radio Okapi, direction Bukavu, au sud Kivu, pour écouter Steve Baugwere qui est déjà en ligne. Il est prêt, on va l'écouter.
Steve Baugwere depuis Bukavu. Tout cela n'est rien d'autre que la pire distraction. Depuis l'émergence du M23, combien d'accords ont été signés? Et à par exemple l'accord cadre d'Addis Abeba, feuille de route de Luanda, processus de Nairobi, mais sur terrain aucun résultat tangible. Le régime Tshisekedi devrait comprendre que nous n'avons que la RDC comme dénominateur commun. La vraie solution ne viendra ni de Washington, ni d'un autre sommet médiatisé, mais d'un dialogue inclusif entre Congolais, c'est-à-dire sans discrimination. Seule une prise de conscience patriotique interne peut sauver le pays. Le patriotisme n'est pas une option, c'est plutôt une obligation.
Willy Michiki.
Oui, j'ai suivi l'auditeur. Je voudrais lui répondre tout de suite que le dialogue national, quoique inclusif, n'est pas une solution. Pourquoi vous avez suivi pas plus tard qu'avant-hier au courant de la semaine, le président Kagame a reconnu que c'est lui qui contrôlait Goma et Bukavu. Alors lorsque nous contrôlons avec nos compatriotes qui se disent être des Congolais comme nous autres, qui seraient dans l'AFC ou dans M23, quel pouvoir aurait-il sur la démarche qui consiste à ramener une paix durable alors que ce ne sont pas eux qui dirigent? Kagame a dit clairement, il a dit que non, il faut faire les deals avec moi, il faut me satisfaire, moi, Kagame, pas assez ambitieux. Donc, c'est pour dire à tous ceux-là qui croyaient au dialogue, que le dialogue n'est pas une solution. Je voudrais aussi en profiter pour répondre à mon frère honorable Kasekwa. Non, il n'a pas lu. Cet accord ici est différent de l'accord signé par le ministre des Affaires étrangères. Quand vous lisez cet accord ici, on ne fait pas allusion aux FDLR, même les Wazalendo, non. On a dit clairement que les groupes non étatiques, notamment les Wazalendo, seront intégrés dans l'armée et d'autres seront démobilisés et à travers le programme d'insertion sociale et de mobilisation. Donc, les Ouazalendo n'ont pas été rejetés. Il faut faire une nette distinction
entre cet
accord de paix.
Intégration conditionnelle.
Le Rwanda et nous. Pardon?
On parle d'intégration conditionnelle de
oui,
ces groupes.
Bien sûr, on a parlé de l'intégration des forces, des groupes armés non étatiques. Mais ça sera d'une manière professionnelle et transparente. Et qui va l'organiser? C'est le gouvernement de la République. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et même lorsqu'on parle de l'intégration économique, notamment les échanges commerciaux, les investissements, il faut lire bien les textes. C'est entre nous et le Rwanda, c'est le point qui revient en dernier lieu.
Donc la création,
les mesures de confiance.
La création d'un cadre de coopération économique régionale entre la RDC et le Rwanda.
Et le Rwanda, oui, mais ça viendra après que les troupes se soient désengagées, après que les groupes armés soient intégrés et d'autres, et les étrangers, ils seront retournés dans leur pays, puisqu'on a beaucoup de mercenaires dans l'AFC M23. Donc ça, c'est le dernier point. Donc ici, les deux, trois premiers points ne sont pas atteints, ne sont pas réalisés. On n'aura jamais d'intégration économique, puisque même quand vous lisez les libellés du texte, dans l'énoncé, on parle de mesures de confiance. On ne peut pas parler de mesures de confiance lorsqu'il n'y a pas aujourd'hui retrait des troupes étrangères, lorsqu'il n'y a pas aujourd'hui désarmement des groupes armés. Donc c'est tout à fait clair. Il faut bien lire le texte. Et on est allé même plus loin. On a même donné ce pouvoir-là au gouvernement de la République qu'on a reconnu, que les Rwandais ont reconnu. Donc ça, on ne parle pas ni de M23, on parle du Rwanda, et c'est une victoire diplomatique pour le président Tshisekedi qui a réussi à présenter le Rwanda comme l'acteur principal de déstabilisation de notre pays, ce qui n'était pas le cas avant. Et si Kagame est passé aux AVEF, c'est parce qu'il y a eu des pressions. Lorsque on dit qu'on devait conditionner la signature de l'accord de paix au retrait des troupes, non, mais c'est inquiet là-bas. Ici même, on a réitéré la volonté des partis à respecter la résolution 2773 qui oblige les troupes étrangères à quitter le pays, notamment les Rwanda. Donc c'est une victoire. Je demande aux collègues de lire. Le texte ici est différent du texte qui a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères. C'est vraiment une victoire diplomatique pour nous. Et surtout, au premier point, je crois que le président Martin Fayoul doit être l'homme le plus heureux de cet accord, puisqu'il a été réaffirmé le respect de l'intégrité et de la souveraineté de la RDC.
Merci.
Qui était le cheval de bataille du président Martin Fayoul.
Bukavu, on va se rendre à Mbujimayi au Kasaï oriental pour écouter Maître Théo Mbuyi.
Maître Théo Mbuyi, depuis la ville de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. La rencontre de ce 4 décembre 2025 est une avancée très capitale sur le plan diplomatique pour le retour de la paix définitive dans la partie est de notre pays, malgré la reprise des hostilités sur terrain qui démontre clairement qu'il y aura un signateur de mauvaise foi. Chaque partie veut signer cet accord en état de force. Voilà ce qui justifie la situation précaire sur terrain et c'est les citoyens congolais qui meurent chaque jour et injustement. S'agissant de l'accord de paix, connaissant que ce n'est pas la première fois que les États signent ce genre d'accord, si dans cet accord qui sera signé, il n'y a pas une mesure contraignante pour l'État qui violera cet accord, sans être prophète de malheur, les hostilités continueront sur terrain, même après la signature du dit accord. Un accord sans mesure contraignante, nous continuerons toujours à déplorer cette agression injuste contre la partie est de la RDC.
Bref réaction, Jean-Baptiste, que c'est quoi?
Oui, je voudrais inviter Maître Théo Mbuyi et ainsi que tous les Congolais à sortir de la naïveté. D'abord, l'accord qui sera entériné demain, désolé d'attendre de la part du député national Willy Mishiki que l'accord est autre, c'est l'une des conséquences de l'opacité dans laquelle Félix Tshisekedi gère ce dossier d'accord. Au point que le Parlement lui-même est mis hors jeu même les députés nationaux. Willy Michik, il est de la province martyre. Il est du territoire de Walikale. C'est la preuve que tous les députés, tous les sénateurs sont mis hors jeu. Le Rwanda a même eu l'audace de faire ratifier cet accord ici par son parlement. Mais en RDC, Félix a eu peur qu'il y aurait des députés incontrôlés qui auraient le courage de questionner certaines dispositions des fameux accords. Et du coup, il part entériner sans que même le parlement n'en soit informé. Et donc, je voulais dire à Maître Mbouyi, lorsque vous lisez la section 7, mise en œuvre et règlement des différends, il est dit, point 3, précision, le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. L'accord a mis en place un comité de surveillance conjointe, composé du Rwanda, de la RDC, composé de l'Union africaine, du Qatar, des États-Unis. Il est étonnant de constater que, malgré la présence des États-Unis et du Qatar, dans ce comité de surveillance, depuis le 27 juillet jusqu'à ce jour, l'accord est continuellement violé. Des Congolais sont tués. Les États-Unis ferment les yeux. Ce qui le préoccupe, c'est obtenir la signature du cadre d'intégration économique, encore que là aussi, les drafts a fuité le 1er août. Depuis lors, le gouvernement nous a dit qu'on a paraphé les fameux cadres d'intégration économique. Personne ne veut nous dire quels sont les détails, quels sont les gisements miniers concernés, quelles sont les conclusions autour de la gestion du gaz méthane, de la centrale de Rusizi 3, parce que les détails sont cachés dans les annexes, de la même manière que par l'accord du 27 juin 2025, c'est par l'annexe, les CONOPS, que nous comprenons que la RDC a été piégée. S'agissant du cadre d'intégration économique, les annexes nous sont cachées, le texte lui-même nous est caché, raison pour laquelle Martin Fayoulou demandait à Félix de rendre public tous les contenus de ces accords. Et dommage, comme je le disais, même les députés nationaux se permettent simplement d'applaudir comme les parlementaires debout de la 12e rue, au lieu d'être exigeants. Donc, j'invite les Congolais à sortir de la naïveté vis-à-vis des États-Unis. Comme toujours, les États-Unis se sont caractérisés par la garantie de l'impunité vis-à-vis du Rwanda. Même en 2000, lorsque l'armée ougandaise et rwandaise se sont battues pour endeuiller les Congolais à Kisangani, les États-Unis se sont opposés à la prise de sanctions contre le Rwanda. Et donc, c'est le même comportement qu'affichent les États-Unis, la stratégie de contournement des résolutions contraignantes. On a voté la résolution contraignante 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis aident le Rwanda à contourner cette résolution par des accords bilatéraux qui mettent le Rwanda hors pression. Et nous félicitons de ça. Félix a choisi la mauvaise stratégie d'amener le malade auprès du sorcier. Merci. C'est-à-dire les États-Unis qui sont les parrains de l'agression. Nous les choisissons comme médiateurs. Et du coup, les accords sont totalement en défaveur de la RDC.
On va prendre tout dernier auditeur de Kinshasa, René Saya. Est-ce qu'il est en ligne? Ok, on le prend.
René Saya Mengebo depuis Kinshasa. Comment croire en un accord de paix pendant que les tirs résonnent encore dans nos collines, que les civils fuient, que les morts s'accumulent? Depuis des décennies, les Congolais de l'Est vivent ce cycle. Des accords signés à l'étranger, sans transparence, sans vérité, et surtout sans changement sur le terrain. L'accord entre la RDC et le Rwanda peut avoir de la valeur diplomatique, mais tant que les agresseurs ne sont pas désignés clairement, tant que les responsabilités sont partagées de manière floue, il ne produira rien. Le peuple congolais n'a pas besoin de signatures politiques, mais de justice, de souveraineté restaurée et d'une paix fondée sur la vérité. La paix ne se négocie pas au-dessus des cadavres.
Alors, Henri Pacifique, vous soyez vraiment concis, hein, juste une petite réaction par rapport aux propos de René Saya.
Je suis parfaitement d'accord avec René et je ne vais pas ajouter parce que, comme je le disais déjà il y a deux ou trois semaines, il y aura cette signature-là, la signature sur les désaccords, mais en attendant sur le terrain, nos populations, ils vont continuer.
Alors, pour conclure, quel est l'indicateur, selon vous, le plus fiable que l'on devrait surveiller hein, au cours des 6 prochains mois pour juger si l'accord de Washington a réellement eu un impact positif sur la sécurité dans le Kivu?
Il faudrait déjà que nous soyons cohérents. Et là, peut-être une sollicitation du député Michiki, s'il y a un texte différent de celui que tous on sait, celui qui a été signé par les affaires étrangères, s'il y a un autre accord sur lequel les deux présidents vont se mettre d'accord demain, je pense que ça serait toujours constructif de nous mettre aussi au courant. J'espère que aussi les électeurs dans le Wanikale et à Goma sont en train de suivre, parce que peut-être à trois, qui arrange une certaine mesure.
On a vraiment du mal à vous suivre, Henri Pacifique. Mayala, la connexion ne nous facilite pas les choses. Voilà. Willy Michiki, votre conclusion, hein, est-ce qu'il faut vraiment oui. croire à l'accord qui sera entériné demain par les deux présidents de la RDC et du Rwanda?
Oui, nous y croyons fermement puisque c'est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité qui s'engage à respecter une des résolutions, notamment la résolution 2773, et nous-mêmes, comme membres non permanents, nous allons mettre tous les mécanismes. Vous savez que les décisions du Conseil de sécurité s'imposent aux États membres. Donc aujourd'hui, le Rwanda n'aura plus de raison de dire que non, j'ai telle excuse. Donc nous pensons que tous ces pays qui ont été, tous ces dirigeants invités comme témoins, vont s'impliquer aujourd'hui à faire respecter cet accord. C'est pourquoi j'ai dit que cet acte ne s'est jamais passé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut féliciter la diplomatie du président Tshisekedi qui est allé vers les parrains du Rwanda, notamment le Qatar qui finance aujourd'hui 60% de l'économie rwandaise et les États-Unis qui soutiennent diplomatiquement les Rwandais. Du moment où ces deux pays-là acceptent aujourd'hui que leur fiel ou leur pays satellite puisse s'impliquer dans cet accord, pour nous, c'est déjà une grande victoire, puisque c'était alors, des choses inimaginables. Vous savez que cette conflit dure plus de 3 décennies.
Vous l'avez dit, excusez-moi, vous l'avez dit hein, dans votre première intervention. Nous sommes à la fin de l'émission, hein, donc soyez vraiment concis. L'accord de paix implique des concessions. Vous garantissez, vous qui êtes de la majorité présidentielle, pouvez-vous garantir que cet accord ne portera pas atteinte hein, à la souveraineté territoriale de la RDC? En une phrase.
Oui, alors, juste cet accord ici respecte la constitution congolaise et les lois de la République. C'est une garantie pour nous. Et puis, le fait de signer un accord ne signifie pas que nous allons démobiliser toutes nos forces sur le front militaire. Non, au contraire, il faut accentuer la pression militaire, pas pour se battre, mais pour renforcer, montrer à l'agresseur que s'il ne respecte pas, ce n'est pas seulement nous, mais aussi les autres pays témoins, pris en témoin, vont nous soutenir.
Merci. Votre conclusion, Jean-Baptiste Soka, c'est quoi?
Ma conclusion, c'est que les Congolais doivent être vigilants. Les accords que Félix signe demain nous conduisent vers la voie de la balkanisation. Comment comprendre que l'on signe un cadre d'intégration économique prétendu régional qui concerne simplement une partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu? On va construire des routes en connexion avec les Rwandais simplement pour ces deux parties-là de la République. Ce n'est pas une intégration régionale entre les Rwandais et l'ensemble de la RDC. La zone sous contrôle ougandaise est laissé de côté. Le Burundi, s'il a la force, il va aussi défendre sa partie. Ça préfigure un peu ce que l'on appelait le prétendu accord de l'Emera. Deuxièmement, nous devons être vigilants. Le Rwanda, par cette reprise de la guerre, vise Uvira pour que, par la chute d'Uvira, on mette la pression sur la RDC pour obtenir à Doha des accords suicidaires autour de la fameuse question de restauration de l'autorité de l'État et des mesures de transition sécuritaire, de la même manière que par la prise de Goma et de Bukavu, le Rwanda a obtenu l'accord du 27 juin et le cadre d'intégration économique défavorable à la RDC.
Merci.
Il faut à tout prix un dialogue national inclusif qui nous permet de surveiller tous les belligérants et d'adopter des mesures qui seront appropriées par tous les Congolais.
Merci Jean-Baptiste. Qu'est-ce que dialogue entre Congolais? C'est fini. Restez branchés sur Radio Capi.